France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Action ou vérité ? C'est le jeu auquel ça donne parfois en fin de colloque. Des historiens, des historiennes, vous savez, ce jeu un tantinet pervers. Action ou vérité ? Il faut répondre à une question en toute franchise ou subir un gage. Secret et mensonge. Ah, ça, c'est autre chose. C'est le très beau thème du 35e Festival du film d'histoire de Pessac. Pessac, c'est à côté de Bordeaux. C'est l'histoire sur grand écran.
Place au cinéma maintenant. Pierre-Henri Delot, bonjour. Vous êtes le programmateur du tout nouveau Festival du film d'histoire de Pessac. Parce que des festivals en France, je crois qu'il y en a à peu près 200.
Oui, mais des festivals du film d'histoire, revus, corrigés par des historiens qui viennent justement réfléchir et décrypter l'histoire à travers la fiction, ça n'existe pas. Je crois que si le cinéma a servi souvent l'histoire, souvent aussi il l'a desservi. Et l'idée, c'est de voir comment précisément il l'a déformé quelquefois.
Et ben voilà, nous étions en 1990, le Festival du film d'histoire de Pessac. François Aimé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du film d'histoire de Pessac, donc vous êtes réalisateur aussi, il faut le dire, avec l'idée que, au moment de choisir un thème, l'enjeu est fort. Pourquoi ce choix, jouer autour du secret, du mensonge ?
En fait, chaque année, le conseil d'administration réfléchit à un thème qui évidemment peut se décliner largement au cinéma, dans le documentaire, la fiction, mais qui aussi résonne avec l'actualité, avec les préoccupations de tout le monde, et les secrets et mensonges aujourd'hui. Je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Dans le contexte du Trumpisme, de la guerre en Ukraine, etc., ça a toujours existé, mais ça prend aujourd'hui une dimension, une ampleur, un impact totalement nouveau.
Et ça interpelle les historiens, les historiennes avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Maya Kandel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis, chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'autrice d'une première histoire du Trumpisme. C'est l'histoire du temps présent, là, on est dedans. Même si l'histoire du Trumpisme, c'est assez long en réalité, hein. Parce que Trump a déjà quand même une longue existence et beaucoup de choses à dire.
Oui, absolument. Je crois que c'était un peu l'enjeu aussi du livre. C'est de montrer qu'il y a déjà une profondeur historique au Trumpisme. Et puis, évidemment, un autre enjeu, puisque le livre est sorti là au début de l'année, c'était de pouvoir analyser, avoir davantage d'outils pour comprendre ce qui nous attendait et ce qui déferle sur nous aujourd'hui.
Il a été publié chez Gallimard et avec nous dans le cours de l'histoire, Noéline Castagnier, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Vous êtes rédactrice en chef de la sublime revue Parlement, la revue d'histoire politique, hein, avec toujours des dossiers qui sont particulièrement éclairants. Vous travaillez particulièrement, vous, sur les socialistes. Quand les socialistes français se souviennent de leur guerre, mémoire et identité, 1944-1995, c'est aux presses universitaires de Rennes. Là aussi, alors, je pense que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices se disent, oui, mémoire des socialistes, il doit y avoir une part de vérité, mais quand même une part de mensonge.
Forcément, puisque la mémoire, c'est une représentation très subjective du passé, donc il y a des oublis volontaires, involontaires, des refoulements. Bon, tout le monde pense au secret de Mitterrand, secret avec un S, bien évidemment, mais pas seulement, voilà.
Voilà, c'est ça, c'est du secret et du mensonge. D'ailleurs, la limite est très floue entre les deux, et c'est ça qui est délicat, parce que est-ce qu'un secret est un mensonge ?
Pas nécessairement, tout à fait. Et puis, on joue aussi sur la crédulité, je veux dire, ça marche à condition que les autres aient envie d'y croire aussi. Et je crois que dans le cas des socialistes, il y a une grande part de croyance aussi, de crédulité volontaire, on va dire.
Crédulité volontaire et la volonté de transmettre le travail des chercheuses, des chercheurs. Et en cela, un festival du film, d'histoire, c'est l'occasion aussi de réfléchir. Maya Kandel, quand vous voyez apparaître le thème, donc on est un an avant la tenue du festival, vous vous dites, mais diantre, c'est pour moi, je vais avoir plein de choses à dire.
Oui, alors c'est vrai que j'ai... Bon, réfléchissant, travaillant sur Trump et le Trumpisme, cette question des... Alors pas tant des secrets, hein, parce que Trump est vraiment un personnage sans filtre, c'est même quelqu'un qui va plutôt s'inventer des secrets. Mais effectivement, le thème du mensonge, la transformation de la réalité, la post-vérité, tous ces thèmes font que je vais passer 3 jours à Pessac pour voir aussi tout ce qui se passe par ailleurs.
Avec ce festival du film, hein, c'est du 18 au 23 novembre 2025, le thème secret et mensonge. François Aimé, malgré tout, le cinéma, c'est toujours du mensonge.
Le cinéma, par définition, c'est une représentation subjective d'une histoire, d'une réalité, ou même pas d'ailleurs, ça peut être... Mais la représentation de l'histoire par le cinéma, c'est évidemment passionnant, c'est toujours partiel ou partial, et ça fait partie des enjeux de cette édition. Bien sûr, à fortiori, tous les ans, mais encore plus cette année.
Avec la difficulté de savoir de quoi l'on parle, parce qu'il y a des films qui traitent de sujets aujourd'hui qui deviennent des documents historiques, enfin pour notre temps présent, puis il y a des films qui traitent d'événements du passé et qui reconstituent une histoire. Tout ça, c'est pas exactement la même chose, c'est la même démarche en littérature, hein, entre le roman historique, et puis alors aujourd'hui ce sont les sagas familiales qui arrivent par beau été.
Oui, tout à fait. Il y a, en fait, tous les films sont susceptibles de devenir des films d'histoire, en fait, puisqu'ils témoignent d'une époque. Et c'est vrai que sur le thème secret-mensonge, il y a énormément de films, par exemple, sur les lanceurs d'alerte, qui sont souvent des films qui sont réalisés dans la foulée de l'affaire, parce qu'il y a une actualité très forte, parce qu'il y a une notoriété autour de l'affaire. Et ces films-là, qui sont des films d'actualité, deviennent 20 ans après des films d'histoire, bien sûr.
Oui, parce qu'au moment de réfléchir à ces actualités, on est obligé de penser au cinéma, puisque c'est bien souvent par là que nous vient la représentation du passé. Le cinéma, c'est important pour les historiennes que vous êtes, au sens où quand nous parlons d'un événement, bien souvent, ce qui nous vient en tête, c'est l'image restituée par le cinéma.
Oui, tout à fait. Puis alors, pour une historienne de la mémoire comme moi, le cinéma, c'est forcément une source, puisque c'est une source sur la manière dont on se représente le passé à un moment donné. De même que la bande dessinée, maintenant aussi, devient une source pour les historiens de la mémoire.
Avec ces images du cinéma qui sont confrontées aux images de l'actualité, Maya Kandel, en travaillant sur Trump, bien sûr, nous sommes saturés d'images.
Ah oui, il y a même, en fait, la Maison Blanche avec Trump 2, je dirais, est devenu même un producteur d'images, un producteur de contenu. Ça, c'est aussi lié à toute la carrière de Trump. C'est quelqu'un qui a 79 ans, qui a toujours, qui a d'ailleurs beaucoup fait d'apparitions. Enfin, c'était plutôt dans les années 90 qu'il faisait des apparitions dans un certain nombre de films iconiques. Il y avait des références à lui. Il adore ça, évidemment. Et puis, bien sûr, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre et qui a construit son lancement en politique sur sa carrière dans la télé-réalité. Donc aujourd'hui, de là, alors là, on n'est plus du tout dans le cinéma, mais disons que c'est ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui la Maison Blanche est devenue à la fois un média, un producteur de contenu, un producteur d'une réalité qui en fait n'est pas vraiment une réalité, justement. C'est là où on rentre dans le thème du mensonge. Et puis Trump lui-même aime dire, par exemple, que un de ses conseillers lui a dit qu'il était le plus grand des influenceurs. Donc voilà, là encore, on est dans la création de contenu. Vraiment, on n'est plus dans le cinéma, excusez-moi.
Noéline Chastanier, ça vous fait sourire, ça. Mais attendez, c'est vrai qu'être influenceur, c'est aussi un petit peu être politique, au sens où l'on parle à l'ensemble de la population, on intervient dans la chose publique, et à l'inverse, les hommes, les femmes politiques ont toujours été un peu influenceurs avant même que le mot existe. L'idée de la communication, c'est inhérent.
Tout à fait. Il faut faire un récit, il faut embarquer les gens dans le récit. Absolument, vous avez entièrement raison. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que moi, j'ai quand même beaucoup plus travaillé sur François Mitterrand. Et alors, par rapport à Trump, je crois qu'on est sur les deux volets d'une communication qui sont totalement inversés. Et vous avez raison, Trump n'a pas l'air d'être l'homme du secret, alors que François Mitterrand, c'était le sphinx. Et il aimait bien cacher beaucoup de choses, quand même, il faut bien le dire.
François, mais au moment de réfléchir à la programmation d'un festival de films d'histoire, c'est bien difficile parce que, puisque nous l'avons dit à l'instant, le cinéma transmet des histoires. Donc l'idée, c'est de trouver les films qui parlent de mensonges, en politique et peut-être pas seulement, et puis de voir aujourd'hui quels films peuvent être utilisés pour réfléchir à cette notion.
Oui, alors en fait, secret-mensonge, quand on commence à travailler dessus, ça concerne quasiment tout le cinéma, parce que par définition, c'est un ressort scénaristique, narratif très fort, le secret et le mensonge. Donc on s'est, avec Julia Pereira, avec qui on a préparé cette sélection de 50 films, on s'est focalisé d'abord sur les sujets réellement historiques ou politiques. Après, on est dans une époque où le public a accès à un nombre de films considérable par VOD, etc. Donc on a plutôt tendance à aller chercher des films un peu rares. Et c'est vrai qu'en histoire, il y a des films qui ont été censurés, par exemple, pendant longtemps, qui sont pas forcément diffusés largement sur Netflix ou sur France TV ou ailleurs. notamment parce que les sujets peuvent être des sujets, j'ai envie de dire, très sensibles, et donc, par définition, pas forcément sur des supports de diffusion très larges. Voilà.
Avec cette idée-là, qui est très importante aussi, hein, c'est que le cinéma évolue aujourd'hui dans un autre contexte que le cinéma d'il y a quelques décennies. Aujourd'hui, exactement, l'accès au film est complètement différent.
Oui, oui, l'accès au film a complètement changé. Vous avez bien sûr totalement raison. Il y a des films qui ont aussi besoin du grand écran. Et puis là, on parle beaucoup de cinéma, mais la programmation est aussi consacrée au documentaire. Et c'est vrai que sur ce sujet-là en particulier, Secret et mensonge, on constate, peut-être sur les 10-20 dernières années, que certains sujets ne sont pas traités par le cinéma, mais sont traités par le documentaire. Je citerai un exemple, par exemple, Cameroun, Autopsie d'une indépendance, un film vraiment qui raconte la guerre d'indépendance du Cameroun. Il n'y a pas de film de fiction sur ce sujet-là. Il y a un film de cinéma, un documentaire, pardon.
Un documentaire.
Et donc, de fait, nous diffusons le documentaire. Bien sûr, on pourrait citer d'autres exemples. Hein. Il y a des zones d'histoire où le cinéma ne va pas.
Je peux citer un autre exemple ?
Oui, bien sûr.
Papa, t'étais où en Algérie? C'est votre film, François Aimé, qui est visible en replay sur France TV. C'est un film, là, hein, de 2025, avec la démarche, ici, et on l'entend bien, par un titre sous forme de question, ce n'est pas l'idée du secret, ce n'est pas l'idée du mensonge, mais c'est qu'il y a des choses à dire, en tout cas, des choses à mettre en avant.
Oui, l'idée du film, c'est d'essayer de comprendre le silence, en fait. Le silence qui a suivi la guerre d'Algérie, à l'intérieur des familles. Et c'est vrai que c'est à partir du travail de Raphaël Branche, donc papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Et j'ai cherché, à l'intérieur de ma famille, de comprendre ce silence et de le percer, en quelque sorte.
Oui, parce que ça fait partie de notre histoire. Et Noéline Chassagnier, vous évoquiez François Mitterrand et son rapport complexe avec le régime du maréchal Pétain. Cela fait partie de notre histoire aussi, parce que il y a ce qui s'est réellement passé, et on pourra en parler, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi comment les gens ont reçu cela, et particulièrement les socialistes.
Tout à fait. Alors, dans le cas de ce passé de vichisto-résistance, qui est totalement maintenant bien compris par les historiens, en fait, je pense que François Mitterrand, à la Libération, s'est dit que ce n'était pas audible. Et donc, ce qui aujourd'hui choque, ce n'est pas tant le secret, puisque, en fait, tout le monde savait, dans les années 50, que Mitterrand avait reçu la Francisque, par exemple. Hein. Il était de bon ton au Palais Bourbon, quand on était de droite, voire gaulliste, de dire Francisque Mitterrand. Donc, voilà. On va pas dire que c'est une découverte, hein. Mais tout le monde se souvient donc du scandale provoqué par le livre de Pierre Péan à l'été 94. Mais ce qui a le plus choqué les socialistes, c'est que Mitterrand ait pu cacher la chose, hein, depuis la Libération.
Pierre Péan, à l'été 1994.
En 1934, lorsqu'il arrive à Paris, François Mitterrand va se situer très rapidement comme volontaire national, c'est-à-dire jeune croix de feu derrière le colonel de la Roque. C'est un engagement à droite, mais pas à l'extrême droite. Il n'est pas Action française. Après sa troisième évasion, il va à Vichy. Dans un premier temps, il adhère complètement au maréchal et à la Révolution nationale. On peut dire qu'il est pétainiste à deux exceptions près. Il est anti-allemand, il n'est pas antisémite. Ensuite, au printemps 1942, il commence des activités clandestines sans renier le maréchal. Et on va voir cette évolution jusqu'au début de 43. Évidemment, il y a un choc après l'invasion de la zone sud et le débarquement allié. Il prend des contacts avec la résistance et à partir de février-mars 1943, il est totalement engagé dans la résistance sans renier pour autant Vichy.
En 1994, au mois d'août, dans le journal de 20h de la deuxième chaîne de télévision française, Pierre Péan, qui évoque le passé de François Mitterrand, le choc de ce livre est peu imaginable. Hein. C'est vrai que quand on l'a vécu, quand on était contemporain des événements, tout le monde en parlait et c'était une révélation. Alors que vous, Noéline Castagnier, vous nous rappelez bien que c'était quelque chose de connu. C'est fascinant d'ailleurs de voir cette réflexion sur la mémoire.
Oui, tout à fait. Je pense que, encore une fois, ce qui a peut-être le plus choqué les socialistes, c'est parce qu'il faut quand même se rappeler que les socialistes de 94 sont des gens qui sont rentrés au Parti Socialiste d'Épinay. Et au Parti Socialiste d'Épinay, refondé en 71, il y a eu un énorme effort de formation extrêmement important qui, bien évidemment, ne racontait pas une histoire avec des nuances de gris, avec des zones grises, etc. Donc, les gens étaient convaincus que c'était une calomnie. Et ce qui circulait au sein du parti, c'était que Mitterrand était un nouveau Salingro, Salingro étant la grande victime du Front Populaire que tout le monde connaît. Donc ces gens-là, de cet âge-là, étaient extrêmement surpris, alors que la classe politique qui était issue de la résistance, tout le monde le savait. Donc là, il y a une espèce de choc. Bon, en même temps, j'ai pu étudier ça un peu plus près, la réception du parti. À Solferino, on récupère cette affaire, parce qu'on est dans l'après-mitterrandisme, Mitterrand extrêmement malade, on sait qu'il va y avoir une succession. Mais quand on va voir dans les fédérations, dans la base, en fait, Mitterrand, on lui a été reconnaissant de la victoire de 81, et moi j'ai pu montrer dans mes travaux que il n'y avait pas une telle émotion. Les médias, il y a énormément d'articles de journaux, j'avoue que j'ai plus en tête, je l'avais compté, mais le nombre d'articles qui sont sortis au moment du livre de Pierre Péan, mais en fait la base était beaucoup moins choquée que cela.
Oui, c'est une lecture toute nouvelle de l'histoire d'un individu, et dans le même temps du Parti Socialiste, mais avec cette complexité-là que François Mitterrand n'est pas un socialiste de naissance.
Non, tout à fait, mais en même temps, c'était le grand argument de dire qu'il était mieux de partir de la droite presque extrême et d'aller à gauche que de faire l'inverse. C'est l'inverse de la dérive fasciste étudiée par Philippe Burin sur Marcel Déa, par exemple.
François Aimé.
Oui, un mot pour dire que pendant le festival, nous programmons le film Le Prince et son image, un film d'Hugues Lepège, qui est passionnant justement par rapport au récit que François Mitterrand a créé autour de sa personne. Parce que Hugues Lepège, en fait, a filmé pendant des années François Mitterrand, en ayant une relation de proximité, il a fait un film de plusieurs heures, un documentaire de plusieurs heures. Je précise que Hugues Lepège était un réalisateur belge. À la fin de leur travail en commun, Hugues Lepège a posé la question qu'il ne fallait pas poser, qui était une question sur les écoutes téléphoniques. Et François Mitterrand l'a congédié de manière assez brutale. Et ça a provoqué chez Hugues Lepège une réflexion en fait sur son travail. Et il s'est rendu compte que pendant toutes les années pendant lesquelles il avait travaillé avec Mitterrand, c'est François Mitterrand qui avait mis en scène son propre documentaire à lui, qui avait choisi les sujets, les lieux, et qui l'avait en fait presque manipulé. Et donc le film qu'on propose, Le Prince et son image, c'est une réflexion sur la manipulation du réalisateur par l'objet politique.
Un film de 2011, Maya Candel.
Non, j'allais réagir parce qu'il y a des ponts avec Trump et d'ailleurs avec un film qui est programmé au festival, The Apprentice, qui est un film qui est sorti l'année dernière dont Trump et son équipe ne voulaient pas entendre parler, qui montre en fait le Trump avant la télé-réalité, avant la célébrité. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce qu'on voit dans ce film, qui est assez fidèle hein, pour avoir lu beaucoup de biographies du personnage, on voit que Trump est un héritier, donc c'est pas du tout un self-made man. On voit la manière dont il essaye de se faire une place dans la bonne société de Manhattan, alors qu'il vient du Queens, qu'il est un peu complexé, qu'il est un peu rejeté, etc. Et en fait, il faut contraster ce qu'on voit dans ce film, qui ressemble davantage au véritable Trump, au personnage qu'il a construit lui ensuite, à travers ses émissions, ses 14 saisons de télé-réalité, où là, il se met en scène comme un self-made man à succès, qui a fait des affaires florissantes, alors qu'on sait qu'il a fait une bonne dizaine de faillites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment réussi, en fait, à imposer cette image et à s'imposer comme ce personnage, puisqu'on voit après, au fil de ces trois campagnes, encore la dernière, que beaucoup de gens, il y a encore des gens qui votent pour lui parce qu'ils imaginent qu'il va être bon pour l'économie, parce que c'est quelqu'un qui a réussi, qui a su faire des affaires, monter une organisation internationale, alors même que, encore une fois, c'est plutôt un héritier qui a fait beaucoup de faillites.
Noéline. Oui, je voudrais juste rebondir en disant que c'est un peu la même situation finalement. Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Donc chez Trump, manifestement, ça répond à des aspirations, quitte à ce que ça ne repose sur aucun élément réel. Et dans le cas de François Mitterrand, c'était l'homme qui devait permettre l'alternance. Il faut quand même se remettre dans l'idée de 81. L'alternance semblait être retardée d'élection en élection. Et donc, pour Trump, je pense qu'il y a les mêmes ressorts, même si je connais mal. Mais voilà. Et je voudrais juste renvoyer à cette phrase qu'on attribue à Jacques Chirac. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est vrai, en fait.
Avec Trump, c'est très gros.
Mais je pense que j'allais dire, Trump aurait pu, je pense qu'il serait absolument d'accord avec ça. Il ne va jamais se laisser sa version être embarrassée par les faits ou par la réalité. Et on connaît ses expressions, hein, dès qu'il y a quelque chose, quand il dit des choses fausses, son équipe vient le voir. Bon, moins maintenant, mais en lui disant non, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Il fait ouais, mais ça fait une bonne histoire. C'est comme c'est un bon moment de télévision. En fait, c'est ça qui compte.
Un bon moment de télévision, ce film sur les premières années de Trump, c'est lequel ?
Alors, le bon moment de télévision, pardon, je faisais référence à lorsqu'il avait reçu Zelensky dans le bureau ovale.
Voilà, c'est le bon moment de télévision.
Cette humiliation publique. L'autre, le film que j'évoquais tout à l'heure, c'est The Apprentice, qui est sorti en novembre 2024 et sera programmé au Festival de Pessac.
Tu veux devenir un gagnant ? Je vais te confier un petit secret. Il y a des règles. Les trois règles de Roy Kahn. La première règle est la plus simple, attaquer, attaquer, attaquer.
Défense des droits civiques.
J'espère que l'abruti qui vous culbute a du pognon, parce que vous en aurez besoin quand je vous aurai fait tirer.
Je vous demande pardon.
Si vous n'abandonnez pas vos poursuites infondées, j'attaquerai le département de la justice pour 100 millions de dollars. Et je vous ferai regretter le jour où vous avez engagé.
Qui êtes-vous ?
Roy Kahn, j'appelle au nom de mon client Donald J. Trump. Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours nier.
Objection. La défense des droits civiques n'a pas rédigé une plainte. Franchement, ça ressemble plutôt à 48 pages de communiqué de presse, à mon avis. Le gouvernement n'a pas été en mesure d'exposer ne serait-ce qu'un seul fait concernant les prétendues pratiques discriminatoires des Trump envers les Noirs. Je demande donc à la Cour de rendre une ordonnance de non-lieu en référé.
Demande rejetée.
Qu'on gagnerait haut la main.
Règle numéro 3, et c'est la règle la plus importante de toutes. C'est clair ? Quoi qu'il puisse se passer, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe la raclée que tu as prise, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. Ne concède jamais la défaite, Donald. Tu veux gagner, c'est comme ça qu'on gagne.
Ça fait hyper peur. The Apprentice, c'est le film d'Ali Abbasi en 2024. François Aimé, ah bah voilà, ça c'est tout à fait le film qui entrait dans la programmation du festival.
Oui, tout à fait. C'est bien de rappeler que le film a été imaginé, scénarisé, etc. avant la réélection, hein, et que en fait tout est dedans, quoi. C'est très impressionnant. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le film, c'est la fabrique de Trump. Il y a un autre film qui est proposé dans le festival et qui est un peu le pendant, qui est un documentaire d'Antoine Vinkin, Opération Trump, des espions russes à la conquête de l'Amérique, qui revient sur les liens entre Trump et la Russie, et même l'URSS, puisque ça, on remonte aux années 80. Et là aussi, on voit comment Donald Trump, finalement, on parlait de l'homme d'affaires, comment il peut se tromper, comment il peut avoir des faillites, et comment, finalement, c'est à un moment donné, c'est les Soviétiques qui viennent l'aider. Voilà, ça vient de rappeler tout ça. Donc c'est un gros travail d'investigation d'Antoine Vidkin, hein, qui est un documentariste qui, depuis une bonne vingtaine d'années, fait un travail sur des sujets comme ça de internationaux. Et il sera membre du jury de la compétition des documentaires d'histoire.
C'est quelque chose qui fait toujours froid dans le dos, parce que vous venez d'évoquer le soutien russe à Donald Trump. Et tout ça, c'est toujours en écho à l'actualité, bien sûr. Et nous voyons comment le cinéma, et pas que le cinéma, bien sûr, peut transmettre des informations, en tout cas la volonté d'éveiller les consciences. Après, on peut réfléchir à l'effet que cela a. Parce que est-ce que les gens s'éveillent en entendant les informations ? Mais dans le cas de Donald Trump, par exemple, il y a cette narration construite et la mise en avant d'éléments sombres de son existence. Mais la force de Donald Trump, c'est de réussir à les détourner, à les étouffer et à faire que bah, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe.
Oui, je crois que c'est là encore, il faut bien prendre conscience de ce personnage qui a... L'histoire de Trump se lit aussi en parallèle avec l'évolution des médias. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours utilisé les médias, qui a su... Avant l'ère des réseaux sociaux, avant même la télé-réalité, utiliser le clash, la provocation, cet art de... En fait, il disait toujours, les médias m'utilisent de la même manière que moi je les utilise pour attirer l'attention. Et on sait que c'est une des manières de caractériser aujourd'hui notre époque, c'est vraiment cette économie de l'attention. Et je crois que si... En fait, Trump, c'est pas un très bon businessman, c'est... L'histoire jugera, mais pas forcément un bon politique, mais c'est un véritable expert médiatique. Et là-dessus, il a vraiment su anticiper et aujourd'hui utiliser, en fait, les évolutions médiatiques de l'époque. Et encore une fois, bon, pour revenir au thème de secrets et mensonges, alors Trump, c'est quelqu'un, alors c'est anecdotique, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui, dans les années 80, pour faire parler de lui, appelait, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour une source interne dans l'organisation Trump, appelait les médias, notamment les tabloïds, pour évoquer des fausses rumeurs sur son compte. Donc il inventait des rumeurs sur son compte qui évidemment étaient toujours flatteuses. C'était soit des conquêtes féminines, soit le prince Charles qui voulait acheter un appartement dans sa nouvelle tour. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours su utiliser ça. Et en fait, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, dans la première histoire du Trumpisme, c'est la manière dont, à partir de sa première présidence, il y a la manière dont il se confronte au réel et il construit immédiatement une réalité alternative. C'est cette expression des faits alternatifs qu'il utilise, que sa porte-parole utilise dès le début, c'est-à-dire que quand quelque chose ne lui convient pas, la taille de la foule à son inauguration, il affirme le contraire. Et en fait, là où on a une évolution importante, c'est qu'à partir de la pandémie de Covid en 2020 et surtout de sa défaite à l'élection, puis de l'assaut sur le Capitole, en fait, il construit tout son retour en politique sur ce double mensonge qui est d'affirmer que Biden aurait perdu l'élection et de présenter l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021 comme une manifestation patriotique d'une foule de gens qui voulaient simplement rétablir la vérité, la réalité de cette élection. Et c'est très important parce qu'il fait campagne là-dessus. Il remporte en partie l'élection 2024 sur ce mensonge, pas seulement, hein, y a des gens qui votent parce qu'ils pensent que c'est encore une fois un bon businessman, mais il remporte l'élection là-dessus. Et en fait, avec la victoire, ce qu'il va faire, c'est d'une certaine manière entériner, concrétiser ces mensonges qui deviennent une nouvelle réalité qui n'est pas une réalité, donc qui n'existe pas. Donc par exemple, dès qu'il arrive au pouvoir, il va gracier toutes les personnes qui ont été condamnées pour l'assaut sur le Capitole. Mais il entreprend aussi un effort beaucoup plus profond de réécriture de l'histoire. Bon, on a tout un tas de décrets qui visent à restaurer la vérité ou restaurer les standards de la science. En fait, dès qu'il parle de restaurer, c'est une réécriture idéologique. Il cherche à imposer une autre version qui correspond au récit que lui-même propose au pays.
François Aimé.
Oui, un mot par rapport à la relation de Trump au cinéma, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était un homme de télévision. Les deux films qu'on a cités tout à l'heure, The Apprentice et Opération Trump, le premier est réalisé par un réalisateur d'origine iranienne canadien, c'est pas un film américain, même s'il y a une partie des financements qui est américaine. Et l'autre film est un film français. Et c'est vrai qu'il y a une tradition du cinéma américain de critique du pouvoir politique. Et si on prend George Bush, enfin W. Bush, il y a Green Zone, il y a Fahrenheit 911, il y a eu des films, il y a le film d'Oliver Stone, évidemment, W. Et pour le moment, il n'y a pas de film américain consacré à Trump. Ce qu'on peut craindre, là on est vraiment dans la réflexion, dans l'hypothétique, mais qu'il arrive justement à empêcher qui est des films critiques des grands films hollywoodiens, comme il y a pu y avoir dans l'histoire d'Hollywood, qui mettent en cause son récit à lui. Voilà. Pour le moment, ce film-là américain, il n'existe pas. Il y a un film canadien, mais pas un film américain.
Quand vous expliquez que, François Aimé, il y a dans l'histoire d'Hollywood des grands films qui critiquent certains présidents, vous pensez aux hommes du président ?
Voilà, exactement.
Monsieur Clausen, ici Bob Woodward. Carl Bernstein du Washington Post a eu une conversation avec la bibliothécaire de la Maison Blanche à propos du livre que M. Hunt a emprunté sur le sénateur Edward Kennedy. Elle a d'abord dit que M. Hunt avait sorti des livres sur le sénateur Kennedy. Et ensuite, elle est allée jusqu'à dire qu'elle ignorait de qui il s'agissait. Vous avez des déclarations à faire sur cette contradiction ?
Écoutez, il vaut mieux que je vous rappelle à ce sujet, je vais aller m'informer.
Entendu, merci. Au revoir.
Tu me rappelles ?
Oui, oui. Et toi, tu rapportes une seule conversation ?
Oui. Elle a dit, enfin premièrement, j'ai réuni de nombreux ouvrages pour Hunt, et puis au bout de 5 secondes, elle a déclaré, je ne connais pas ce monsieur Hunt, elle s'est fait sermonner, c'est
sûr. Ça suffit pas comme preuve. C'est vrai, si on avait un bout de papier qui prouve que Hunt a emprunté des bouquins sur Kennedy et sur son accident, disons, je sais pas, une fiche de
Hunt a aussi fait des emprunts à la bibliothèque du Congrès, mais ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un l'ait sermonné, et en un laps de temps aussi
court. Pourquoi dis-tu qu'on l'a sermonné?
Parce qu'elle a dit que Hunt avait, il avait un temps, enfin, qu'il avait consulté un tas de livres, et quand elle a repris l'appareil, elle savait plus qui c'était.
Allô, monsieur Woodward? Ken Clawson, je vous rappelle comme prévu, je viens de parler à la bibliothécaire.
Oui, monsieur.
Oui, elle nie avoir eu un entretien avec monsieur Bernstein. Mais elle dit qu'elle a adressé au bureau de presse.
Excusez-moi, monsieur. Vous dites qu'elle nie avoir eu une conversation avec monsieur Carl Bernstein?
C'est cela même, oui. Mais elle m'a dit que quelqu'un l'avait effectivement appelé au sujet de monsieur Hunt, mais elle n'a fait que le mettre en ligne avec le bureau de presse. Oui, et elle nie avoir eu un entretien.
L'école a plein tube.
Ben, j'espère que ceci vous aura éclairé, monsieur.
Merci. Il faut du noir sur blanc, mon vieux.
Bah oui, toujours, hein, parce que comme ça, après, c'est plus clair. Les Hommes du Président, le film de 1976 autour du scandale du Watergate. Parce que aujourd'hui, par exemple, raconter le scandale du Watergate oblige à évoquer ce film. Le cinéma entre aussi dans l'histoire même.
Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment important de rappeler le délai très court entre l'affaire et la sortie du film, c'est 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment inimaginable. C'est bien de rappeler que c'est Robert Redford qui a l'initiative du film. Donc, il y avait des personnalités à Hollywood qui avaient une conscience politique assez impressionnante aujourd'hui quand on réfléchit. Alors, on peut penser plus récemment à Michael Moore. Mais Michael Moore, c'est déjà de l'histoire ancienne, quelque part. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à Hollywood quelqu'un d'équivalent à Robert Redford ou à Michael Moore?
Ah ben ça, c'est la grande question.
Hein, c'est la grande question.
Maya Kandel, parce que non, mais c'est vrai que au moment de réfléchir à la contestation qui peut apparaître à travers le cinéma, le cinéaste Michael Moore, bien sûr, par ses critiques extrêmement violentes de la présidence, a marqué son temps. Mais est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Parce que les mises en garde de François Aimé, moi, je les entends. Ça me fait un peu peur de me dire qu'aux États-Unis, les réalisateurs, réalisatrices n'oseraient plus.
En plus, il y a des facteurs économiques, tout simplement. Hein. Quand on voit la transformation aussi en termes de production aujourd'hui, la domination de certaines plateformes et la manière dont les grandes entreprises, alors c'est dans la même région, Californie, mais c'est pas forcément le même domaine, quoique. Quand on voit les acteurs de la Silicon Valley, la manière dont ils se sont ralliés à Trump, les grands acteurs médiatiques, là, aujourd'hui, sa domination du paysage médiatique, c'est lié à ça aussi. C'est lié au rachat de X, de Twitter, par Elon Musk, mais aussi la mainmise de la famille Ellison, père et fils, sur les grands médias, les grandes chaînes, etc. C'est une vraie question. Et l'extrait sur 74 et la destitution, enfin la démission de Nixon après que la procédure de destitution ait été engagée contre lui au Congrès à l'époque, ça m'évoque quelque chose qui s'est passé cet été, qui est le Smithsonian, donc un des grands musées d'histoire des États-Unis qui appartient à l'ensemble des Smithsonian, qui a été très attaqué par Trump, avait une exposition sur les destitutions présidentielles qui se terminait par les deux destitutions, enfin tentatives de destitution contre Trump, et ça a disparu. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'état de l'exposition pré-2019, avant. Donc on ne parle que de 3 présidents impactés. Et donc voilà, si déjà on a cette réécriture en temps réel, cet effacement, j'espère qu'il y aura des. Mais sinon, on comptera sur des Canadiens et les Français. Hein.
C'est ça. Oui, non, moi, quand on écoute aujourd'hui les réalisateurs et les acteurs qui viennent en France en tournée promotionnelle pour sortir un film, ils sont systématiquement questionnés sur Trump, qu'est-ce qui se passe, etc. Et si vous écoutez bien, ils ont toujours des réponses extrêmement prudentes. Ils répondent toujours à côté et il n'y a plus aucune critique frontale par rapport au pouvoir, ce qu'il y avait par le passé.
Et nous assistons peut-être à quelque chose qui, aux États-Unis, a lieu en ce moment et que nous n'imaginons pas. On ne peut pas l'imaginer.
Oui, ce qui est très très surprenant en fait aux États-Unis, c'est que pour nous, c'est quand même une grande démocratie libérale. On est habitué à voir les manipulations du passé par des pays autoritaires. On a dans la tête le souvenir des régimes totalitaires. Mais là, ce qui est très surprenant, c'est toute cette attaque des musées, des archives. Il y a des archives qui ont été détruites aux États-Unis. Et c'est vrai que ce poids qui pèse sur nos collègues historiens, notamment, on a eu des échos quand même extrêmement inquiétants de programmes qui ont été interdits. Enfin, on va supprimer des subventions si on travaille sur tel ou tel aspect qui déplaît à Trump. Et ça, on ne l'avait finalement, je crois, jamais vu de manière aussi évidente dans une grande démocratie. Et une histoire qui sert est une histoire serve, comme disait Lucien Febvre, hein, on apprend ça à nos étudiants. Mais on le savait, mais pas dans une démocratie de cette nature. Et là, j'ai en souvenir cette photographie de l'esclave fouetté qui faisait partie d'une collection. Hein, Télérama en a parlé et il l'a fait retirer de plusieurs musées également. Enfin, alors que c'est un lieu de mémoire, en fait. Donc,
L'idée même de l'intervention du politique dans le culturel, vu d'ici, nous étonne. Et que la présidence des États-Unis peut avoir un effet sur la production cinématographique états-unienne, c'est quelque chose qui nous gêne. Donc il y a le Canada, ça c'est une chose, il y a les autres pays, et la France aussi. Noéline Castagnier, tout à l'heure nous entendions, en évoquant Trump, comment il assume le mensonge. Et lors de son investiture, il n'y a pas assez de monde, et bien il dit qu'il y en avait plein. Et il y a des images, mais non, il dit qu'il y en avait plein. Avec François Mitterrand, on n'est pas dans le mensonge.
Non, du tout. François Mitterrand, c'est très subtil, notamment le récit de sa vie par rapport à Trump. C'est tout à fait progressif, cette fameuse histoire de Francisque. Son premier écrit autobiographique de 45, il parle des prisonniers de guerre. Hein, en tant qu'ancien résistant d'un grand mouvement des prisonniers de guerre, il distille des petites choses sur sa vie, mais il parle pas de la Francisque. Et puis quand la Francisque devient inévitable, il laisse entendre qu'elle lui a été donnée alors qu'il était à Londres. Et puis ensuite, il laisse entendre que oui, il l'a portée, mais c'était pour faire un double jeu. Vous voyez, il y a un petit glissement comme ça, progressif et successif, qui est fait. Mais il n'y a pas de vérité alternative au sens où on l'entend avec Trump, où vraiment, ce qui est noir devient blanc, ce qui est blanc devient noir. C'est beaucoup plus subtil que ça.
Oui, la Francisque, hein, cette décoration, cette médaille qui a été donnée du régime du maréchal Pétain.
Voilà.
Avec François Mitterrand, qui a une longue existence politique. Nous évoquons le moment Seconde Guerre mondiale. Il y a le moment des années 1950. Il est ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice au moment de la guerre d'Algérie.
Tout à fait, ça aussi. Mais ça, il n'a jamais tenté de le cacher, parce que enfin, c'était une évidence. Il a accepté la condamnation à mort, par exemple, de Yveton, ce jeune militant communiste qui avait mis une bombe, mais à un moment où il n'y avait personne, donc il n'y a pas mort d'homme. Oui, tout à fait. Et simplement, il se tait. Voilà, il ne met pas en avant. Quand le parti d'Épinay, il reconstruit le parti d'Épinay, il accueille des gens qui sont entrés en politique contre la guerre d'Algérie. Il y a tout un courant qu'on appelle le courant issu des Assises, hein, derrière Rocard en 74, qui sont des anticolonialistes. Donc forcément, il ne peut pas mettre en avant son passé sur la guerre d'Algérie. Mais il y a une espèce de consensus pour le taire, finalement. Quelqu'un comme Daniel Mayer, qui est un résistant, qui sait très bien que Mitterrand a été vichisto-résistant, qui sait très bien qu'il a été ministre de la Justice, qu'il a accepté la peine de mort, hein, Daniel Mayer le soutient jusqu'au bout. Il est président de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif est plus important. Obtenir l'alternance, c'est plus important que finalement les passés recomposés de François Mitterrand. Et je pense qu'aux États-Unis, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. On accepte le mensonge parce qu'on y a intérêt quelque part. S'il mentait tout seul, ça ne serait pas important.
Maya Cordel.
Oui, je crois que vous pensez aux électeurs, aux gens
qui croient à ces mensonges.
En fait, je pense qu'il y a vraiment deux catégories. Il y a absolument ça. Il y a deux catégories d'électeurs de Trump. Il y a vraiment ceux et de soutien plus largement. Il y a ceux qui le suivent, qui votent pour lui justement parce qu'ils adhèrent à tout ce qu'il dit. Et puis, y compris toute cette réalité parallèle, y compris lorsqu'il prétend qu'il reprend des théories du complot type QAnon pour expliquer ses difficultés à mettre en œuvre sa politique. Ben, il est en lutte contre des forces obscures, kabbalistes, qui boivent le sang des enfants. Enfin bref, c'est complètement délirant. Hein. Là, on est resté dans des choses assez raisonnables, mais ça va très loin. Et puis, il y a une deuxième catégorie de gens qui vote pour lui malgré tout ce qu'il dit, malgré ses mensonges, mais parce qu'il croit à cette version de quelqu'un qui va sauver l'économie. Donc on est sur plusieurs niveaux de croyances, de mensonges, etc. Mais c'est vraiment l'inverse. C'est intéressant. J'avais pas pensé à cette comparaison à ce point-là avec François Mitterrand, mais c'est vraiment l'inverse parce que Trump, alors lui, le silence, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Le côté personnage sans surmoi et qui va même inventer des choses et puis qui va, au contraire, des petites touches. Lui, c'est l'inverse. Il est capable de vous regarder dans les yeux ou dans la caméra et de dire qu'il n'a jamais dit quelque chose, qu'il a dit 2 heures avant, c'est filmé et c'est pas grave. Donc il y a un côté vraiment, il peut effacer la réalité.
J'y avais jamais pensé avant, c'est tout l'intérêt en fait d'un festival. C'est l'intérêt globalement des rencontres et on le voit bien hein, dans le domaine de la recherche en histoire, il y a toutes ces journées d'études, ces colloques où l'on se rend compte et pour un festival, le festival du film d'histoire de Pessac, c'est aussi cela. C'est pas simplement aller voir des films qui parlent du passé ou qui sont des films historiques en costume. C'est pas ça l'idée, c'est de faire venir des historiennes, des historiens et ça crée de l'échange. D'ailleurs, parfois, dans des domaines de la recherche, qui se croisent peu, je pense notamment à différentes périodes de l'histoire.
Oui, mais si on revient sur la guerre d'Algérie, moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai qu'il y a pas forcément des mensonges autour de Mitterrand et la guerre d'Algérie, plutôt à la fois une forme d'oubli, d'omerta, qui concerne d'ailleurs pas que Mitterrand, mais qui concerne toute la guerre d'Algérie, et ça fait partie des sujets hein, du festival, puisqu'il y aura un débat le samedi 22 novembre au matin avec Raphaël Branche, avec Fabien Sacrist et avec Christophe Lafaille sur la guerre d'Algérie, la fin du déni et des mensonges, point d'interrogation, c'est-à-dire où on en est après plus de 60 ans sur la guerre d'Algérie. Je reviens sur François Mitterrand, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que le cinéma américain a pu à un moment donné filmer des sujets politiques en direct et on se pose la question s'il va le faire dorénavant sous Trump. Le cinéma français n'a toujours pas fait un grand film de fiction sur François Mitterrand et pourtant il y a des histoires à raconter. Donc y a une vraie difficulté pour le cinéma français d'aller sur certains sujets, et si on parle de la guerre d'Algérie, le premier grand film sur la guerre d'Algérie, c'est un film italien, c'est la bataille d'Alger.
Oui. Hein,
voilà, donc c'est pas un hasard.
Noéline Castagnier, il y a quand même un film, sublime film d'ailleurs, de Robert Guédiguian, Le promeneur du Champ de Mars, c'était un film de 2005 qui traitait de François Mitterrand. Donc il peut y avoir des films, et puis il y en a d'autres. Il y a même Jean d'Ormesson qui a joué un pseudo Mitterrand dans Les Saveurs du Palais. Oui. Une évocation.
Une évocation.
Voilà, une évocation. Pour Le promeneur du Champ de Mars, oui. On est sur une réflexion beaucoup plus solide.
Oui, mais je pense que là, alors c'est ce personnage âgé qui est malade, parce que bon, il y a quand même eu la fin de Mitterrand, c'est l'ars moriendi, hein, c'est la capacité à assumer la souffrance, etc. Ça a joué d'ailleurs dans ce que je disais tout à l'heure. Les militants à la fin avaient pas vraiment envie d'aller embêter Mitterrand sur son passé, parce qu'aussi ils étaient affectés. On se souvient de cet échange avec El Kabbach, hein, le 12 septembre, il est dans un état quand même difficile, hein, il souffre beaucoup.
On l'entend à sa voix.
Vous avez dit à Gisbert que vous n'aviez jamais flirté avec l'extrême droite, mais avec la droite, oui, ils étaient de droite, c'était le milieu.
Mais j'ai déjà dit que j'étais un produit, comme beaucoup de Français, de mon milieu, de ma société, de mon éducation. J'ai dit petite bourgeoisie dans une petite ville de province.
À ce moment-là, quel sentiment vous portez au maréchal Pétain, si vous en souvenez?
À ce moment-là, on a beaucoup vécu sur l'idée... idiote, mais très répandu, que Pétain et De Gaulle étaient d'accord. C'était dans les camps. Vous voyez, dans les camps, il y avait des cercles Pétain.
Et vous faisiez partie des cercles Pétain?
Jamais. J'étais contre. Et j'ai mené une action pour refuser ce type d'adhésion qui, au fond, devenait elle-même idéologique. C'est-à-dire Pétain, bon, ben, c'était une couverture. Révolution nationale, ça, non.
François Mitterrand au micro de Jean-Pierre El Kabbach. Nous étions en septembre 1994, donc après la parution de l'ouvrage que nous évoquions tout à l'heure de Pierre Perrand, François Mitterrand qui meurt en janvier 1996, hein, très vite après. Noéline Castagnier, François Mitterrand est aussi porteur d'une mémoire ici, une mémoire constituée, fabriquée. Il évoque quelque chose au-delà de son adhésion au maréchal Pétain, l'idée du moment que De Gaulle et Pétain auraient pu être alliés, une idée qui aurait circulé à un moment. Tout ça, ce sont des éléments que l'historienne peut saisir, utiliser pour réfléchir. Parce que un des pièges, et on le sait en histoire, on le répète sans cesse, c'est la téléologie. C'est-à-dire que nous savons la suite des événements. C'est toujours dur de se replacer en juin 1940, par exemple. Bon ben, voilà, on a un élément via François Mitterrand.
Oui, non mais... Il n'a pas tort quand il dit que la thèse du bouclier et de l'épée, beaucoup de gens y croyaient tout à fait. Et vous avez raison, nous, enfin moi je suis aussi enseignante et on ne cesse de dire à nos étudiants, faites attention, essayez de retrouver l'outillage mental du moment, l'incertitude du moment. Il est certain que Mitterrand était dans les camps. C'est vrai que la propagande pétainiste dans les camps était importante. Voilà. Mais encore une fois, je crois que ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est son amitié avec des gens... notamment René Bousquet, soyons clairs, avec des gens qui ont participé à la RAF du Vel'd'Hiv, très longtemps après, à un moment où il avait tous les outils. D'autant que Mitterrand, c'est quand même peut-être l'un des derniers grands présidents qui lisait énormément, on le sait parfaitement. Il lisait beaucoup, il était très 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 informé. Donc on a du mal à imaginer qu'après il ne savait pas. Que dans son camp, son stalag, il ignorait, ça paraît une évidence. Mais ensuite, on ne comprend pas très bien pourquoi il a... Alors si, on comprend, parce que Mitterrand fonctionne comme ça, il fonctionne avec des cercles, etc. Mais le grand public était très, très choqué par ça.
Puis vous venez d'évoquer le fait que vous êtes également enseignante et dans le cas d'un festival de films d'histoire, l'aspect pédagogique est aussi très important.
Oui, tout à fait. C'est même, j'ai envie de dire, primordial. On fait un travail, si vous voulez, à l'échelle de la région, en fait, en produisant, en éditant des dossiers pédagogiques. Et il y a une sélection d'une vingtaine de films sur le thème donc secret et mensonge qui ont été proposés au collège, au lycée, aux profs d'histoire, mais aussi aux profs d'anglais, d'espagnol, etc. Et donc, c'est une des raisons, pour revenir à votre question du début, c'est une des raisons du choix du thème. Secret et mensonge. C'est-à-dire que, au sein du conseil d'administration, il y a notamment le rectorat qui est représenté, mais pas seulement, des enseignants, qui ont dit, il est indispensable qu'aujourd'hui, on donne la possibilité, à travers le festival, c'est une initiative parmi d'autres, d'alerter les lycéens notamment sur la nouvelle façon, les nouvelles façons de manipuler l'information. Et notamment le film dont on parlait tout à l'heure, plusieurs films dont on parlait tout à l'heure sont proposés. Je pense à Opération Trump, par exemple.
Oui, parce que c'est tellement éclairant pour le présent, Maya Kandel, une première histoire du trumpisme. D'ailleurs, ça aurait pu être une première histoire de Trump. D'autres auraient pu faire ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous faites le trumpisme, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, il y a une idée. Cette mécanique-là, on en a besoin aujourd'hui, mais c'est une mécanique qui va... À l'inverse de votre démarche d'historienne, où vous travaillez sur la source, l'argumentation, la confrontation des documents, et là, vous étudiez quelque chose qui fonctionne pas du tout comme ça, c'est-à-dire c'est la fausse information, c'est le mensonge en avant.
Oui, absolument. Après, ça n'empêche d'appliquer une démarche historienne.
Ah oui, vous l'appliquez, bien
voilà,
sûr. Oui.
Mais à ce qui est, effectivement, j'ai travaillé sur le trumpisme, mais pas seulement Trump, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'impact, la manière dont Trump a transformé la droite américaine, transformé la manière de faire de la politique aux États-Unis, et au-delà, en fait, parce qu'on voit bien qu'il y a des conséquences, un pouvoir d'influence des États-Unis, parce que c'est la première puissance, etc., mais aussi, il y a beaucoup de liens entre les partis de droite et d'extrême droite en Europe et le nouveau parti républicain, cette nouvelle droite américaine. Mais disons que, je m'interroge vraiment sur la manière dont dont Trump, est, avec ce mouvement politique, est en train de transformer aussi les États-Unis. Parce que c'est un personnage, bon, comme souvent, comme pour les grands personnages, les grands personnages qui marquent l'histoire, il incarne, il arrive au bon moment, il incarne l'esprit du temps. Il parvient à incarner cette période très particulière où on vit aujourd'hui, où on a à la fois une transition du système international, une nouvelle répartition des pouvoirs, une crise des démocraties libérales, mais aussi une transformation radicale du paysage médiatique avec Internet, avec les réseaux sociaux, maintenant avec l'intelligence artificielle. Et ça transforme complètement à la fois la politique, notre rapport aux faits, à la réalité. Alors, des choses que je repense toujours elle est beaucoup citée, Hannah Arendt, aujourd'hui, mais ce rapport sur le rapport entre politique et mensonge, il y a vraiment des choses qui sont très anciennes, mais qui aujourd'hui bénéficient d'outils sans précédent.
Oui, c'est ça, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que nos arguments, nos fonctionnements intellectuel pour contrer ou convaincre l'autre ne fonctionne pas face au trumpisme. Ça nous passe entre les mains, ça nous file comme ça, comme une savonnette.
Oui, il y a ce côté où il parie sur le cynisme des populations, sur le fait que les gens ne croient plus en rien, donc sont prêts à embrasser n'importe quelle version. On voit ça avec des gens qui vont suivre un podcast, un podcasteur en particulier, ou un influenceur, encore une fois, plutôt que de lire les journaux. On a perdu cet accord sur les faits communs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve le premier mandat de Trump était encore dans un rapport. Il avait encore besoin des médias. Il y avait des gens qui venaient le rappeler à l'ordre un peu, y compris dans son équipe. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette construction d'une réalité parallèle et dans laquelle il entraîne vraiment tout le pays. Alors, il y a des chocs de réel, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu le propos de la nouvelle collection que mon livre inaugure chez Gallimard.
En attendant le réel.
Voilà, parce que, par exemple, Trump n'a cessé de répéter « mais les gens ont tort, ils se trompent, l'économie va bien, etc. » Bon, là, on a vu, il y a eu des élections partielles. Les gens, quand ils payent de plus en plus cher les œufs, l'essence, ils croient quand même leur porte-monnaie et ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc là, il y a quand même, heureusement, la réalité existe encore, les faits existent encore. Donc il peut y avoir des chocs de réel, mais parfois on perd ça.
Et ces chocs de réel, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec François Mitterrand, quand dans les années 1990, ressurgit dans les médias et dans les discussions sont passées du côté du régime du maréchal Pétain, avec l'idée, malgré tout, Noéline Cassanier, que François Mitterrand a réussi, à la fin des années 1970, au début des années 1980, à correspondre à l'attente d'une majorité de la population. C'est ça aussi sa réussite, et le secret fait partie de cette réussite.
Tout à fait. Et devenir l'homme de l'alternance, très sincèrement, si on oublie la réussite de 81, c'est pas gagné du tout. Je pense qu'on se souvient qu'au dernier moment même, ça aurait pu être au quart. À l'époque, il n'y a pas de primaire, hein, mais il y a quand même le Congrès qui décide qui doit être le candidat. Et sincèrement, ça aurait pu être Michel Rocard. Donc, mais en même temps, Mitterrand, justement, par ce côté un peu attrape-tout, finalement... mais très tôt, par exemple, son côté a été à Vichy, ne l'a pas forcément desservi tout le temps, même après la libération, parce que beaucoup de gens, somme toute, avaient été vichistes. Donc, être de toute une pièce, c'est pas nécessairement non plus une bonne idée. Est-ce que je peux rebondir?
Allez-y, rebondissez.
Parce que je pense que, enfin, vous savez, c'est une idée de Paul Veyne, hein, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Mais je reviens sur cette idée de croire et d'avoir besoin de croire, ce qui, en fait, le politique a toujours raconté un récit, a toujours promis quelque chose, ça c'est pas nouveau. Mais là où je crois que c'est très important ce que vous dites, c'est qu'il est en train de s'arroger un monopole des moyens de communication. Et là, ça fait forcément penser à ces États, alors on admet le concept, on l'admet pas, on va pas rentrer dans le débat, totalitaire, où il y a le contrôle de la capacité de créer un récit. Et c'est là que Trump fait très peur, parce que finalement, on a l'impression qu'il fait taire tous les contre-pouvoirs, y compris le cinéma, et là, on se dit qu'on va basculer dans quelque chose d'autre. Parce que sinon, les politiques ont toujours raconté des histoires, somme toute.
Non, mais c'est très juste de le rappeler, et vouloir faire taire les humoristes, là aussi, ce sont des signes très négatifs, vouloir retirer des livres des bibliothèques.
Voilà.
Là, on a des choses très factuelles. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, pour évoquer le festival du film d'histoire de Pessac, de sublime historienne, on l'entend dans ce que vous dites, avec le trumpisme, avec les socialistes, mais François Aimé, il faut rappeler que le festival touche tant et tant de gens par beaucoup d'interventions, beaucoup d'intervenantes, d'intervenantes.
Oui, tout à fait. Et puis, ce que j'ajouterais, c'est qu'on a un thème qui s'appelle « Secret et mensonge ». Alors moi, ça fait un an qu'on travaille sur cette édition. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a naturellement, on va plus sur le mensonge, en fait. C'est parce que la thématique des fake news est là, elle prend toute la place, en quelque sorte. Sur le festival, on a essayé de rééquilibrer les choses, et on rappelle quand même qu'on est dans une période de révélation de secrets, comme il n'y a jamais eu depuis des temps vraiment très anciens, et MeToo a lancé une vague de révélations sur les abus sexuels, les violences, enfin la succession des affaires, une des dernières, c'est l'affaire Abbé Pierre, est phénoménale. C'est-à-dire que l'Abbé Pierre était le personnage préféré des Français pendant des années, des années, des années. Et tout d'un coup, cette idole est tombée parce que je pense que ça correspond à notre époque. Et dans le festival, il y a énormément de rendez-vous, énormément de films qui parle du journaliste d'investigation, des lanceurs d'alerte, des gens qui font un travail de révélation.
Énormément d'historiennes, d'historiens dans ce festival. Merci vivement à tous les trois d'être venus nous présenter à la fois les travaux, à la fois le festival, le 35e festival du film d'histoire de Pessac. C'est du 18 au 23 novembre. Où ça? Bah, à Pessac, évidemment, en Gironde, à côté de Bordeaux. Le thème, secret et mensonge, juste dire que le président d'honneur, c'est tout de même Jean-Noël Jeannet, notre Jean-Noël Jeannet de France Culture. Le cinéma, il y a toujours un truc, moi, qui m'énerve, ce sont les pop-corns. Il n'y en a pas chez vous?
Non, non, non.
Bon, alors, je vous propose autre chose. Caramel, bonbon et chocolat.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci, pas pour moi, mais bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Voilà, toujours des évocations de mensonges, de paroles et de paroles. Et voici maintenant, dans le cours de l'histoire, le fil histoire, la chronique à retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant au podcast Le Fil Culture G. C'est sur les réseaux sociaux tous les jours. Des décryptages en économie, en sciences, en philosophie. À retrouver aussi en vidéo hein, sur France Culture. Alors aujourd'hui, dans le fil histoire, le médiéviste Emanuele Arioli, vous savez, l'auteur de Ségurant, le chevalier au dragon, cherche cette fois-ci le blason.
Aujourd'hui, on reconnaît une marque d'un coup d'œil, grâce à son logo. Simple, clair, unique, mais ce langage visuel puissant n'a rien de moderne. Le Moyen-Âge l'avait déjà inventé avec les armoiries. Imaginez, nous sommes au XIIe siècle, pendant un tournoi ou une bataille. Comment reconnaître les chevaliers en plein combat ? Car à cette époque, les casques ont évolué. Les haumes couvrent désormais tout le visage. La solution est brillante. Peindre des symboles colorés sur les boucliers. Formes géométriques, animaux stylisés, des signes simples, visibles de loin, propres à chacun. Naissent ainsi les armoiries dans les années 1130-1140, sans doute d'abord en France et en Angleterre, puis à travers toute l'Europe. Elles sont alors reproduites sur les sceaux. Puis, des manuscrits les inventorient. Ce sont les armoriaux. Très vite, c'est une vraie fièvre. Famille, ville, guilde, bourgeois, tout le monde veut ces armoiries. Cela devient un marqueur social. L'Église est d'abord méfiante, c'est profane, mais papes, évêques et abbayes finissent par suivre la mode. On estime à 1 million le nombre d'armoiries médiévales. 1 million, autrement dit, à la fin du Moyen-Âge, tout le monde, ou presque, a son logo, pardon, son blason. Et vous? Qu'attendez-vous pour créer le vôtre? Car les traités de blason vous donnent toutes les règles. Par exemple, celui de Clément Princeau au XVe siècle. D'abord, choisissez vos couleurs et métaux. L'or, qui symbolise la noblesse. L'argent, la loyauté. Le rouge, qu'on appelait gueule, la vaillance. Le bleu, dit azur, la beauté. Le vert, dit sinople, l'amour. Le noir, dit sable, le deuil. Le pourpre, la richesse. Et il n'y a que 2 métaux, or et argent, 5 couleurs, et 2 fourrures stylisées, l'hermine et le vert. Rapidement, l'imaginaire s'en empare. On commence à attribuer des armoiries aux grandes figures du passé. Alexandre le Grand, César, Charlemagne, et tant qu'à faire, pourquoi ne pas donner un blason au diable ? Oui, lui aussi a eu droit à son branding infernal, rouge flamboyant et or, avec 3 crapauds verts, créatures démoniaques, un marketing d'enfer. En réponse, on donne des armoiries au Christ, avec un agneau pascal, ou le voile de la Véronique. Et à la fin du Moyen-Âge, Dieu lui-même reçoit un blason représentant la Sainte Trinité stylisée. Oui, vous avez bien entendu, même Dieu avait son logo. Et aujourd'hui, ce langage visuel né au XIIe siècle est toujours là. Loin de disparaître avec la chevalerie, il a survécu à l'époque moderne, porté par les familles nobles, les villes, les institutions. Et regardez combien de logos reprennent encore des écus médiévaux, des clubs de foot comme le Barça, des marques comme Porsche, Ferrari, et même des associations, des universités, des mouvements. Alors, la prochaine fois que vous verrez un blason, pensez à ces chevaliers casqués. Ils voulaient juste qu'on les reconnaisse dans la mêlée, mais sans le savoir, ils lançaient la plus longue mode visuelle de l'histoire.
Merci Emmanuelle Arioli. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, à la technique Jean-Guy Lamège. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Chloé Rouillon, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire, retrouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.